Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Peut-on se passer des élites ? Le premier réflexe serait de répondre non. Non, parce qu'en ces temps d'incertitude, elles ont ceci de pratique qu'on peut tout leur mettre sur le dos. L'élection de Trump, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le chômage. Et pour peu que Matteo Renzi échoue à faire passer dimanche prochain sa réforme constitutionnelle ou que le candidat de l'extrême droite remporte la présidentielle en Autriche, il faudra allonger la liste des récriminations, lesquelles ne sont sans doute d'ailleurs pas toutes sans fondement. Ce qui est remarquable, c'est qu'on peut faire soi-même partie de ces élites, être par exemple député d'un arrondissement parisien parmi les plus cossus, avoir une tour à son nom en plein Manhattan et se poser en super contempteur de celle-ci. Rien de mieux en effet que les élites pour dire tout le mal qu'elles pensent d'elles-mêmes. Mais pousserait-elle l'autocritique jusqu'à se saborder ? Voilà qui est moins sûr. Alors, peut-on se passer des élites ? C'est la question que nous posons donc ce soir dans le cadre d'une semaine de programmation spéciale que nous avons intitulée « Pourquoi ne voyons-nous plus rien venir ?» Il sera question du rôle des journalistes, des corps intermédiaires, de la littérature et donc ce soir celui des élites. Et j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Loiseau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de l'ENA, l'École nationale d'administration, depuis 2012. Pour discuter avec vous, un professeur de droit constitutionnel, Dominique Rousseau.
Bonsoir. Bonsoir.
Professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Radicaliser la démocratie, c'était l'ouvrage que vous avez publié l'an dernier aux éditions du Seuil. Troisième invité, Manuel Cervera-Marzal, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Pour un suicide des intellectuels, c'est un ouvrage que vous avez publié aux éditions textuel dont vous étiez déjà venu nous parler. Et puis nous sommes en partenariat toute cette semaine avec le journal La Croix. Et son directeur est avec nous, c'est Guillaume Goubert, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Directeur avec qui je vais vous poser ces quelques questions autour de la place des élites. Peut-on se passer des élites ? Manuel Cervera-Marzal, est-ce que c'est une question typique de celle que peuvent poser justement les élites ?
Oui, c'est une question typique de celle que peuvent poser les élites. Ce qu'on regarde, c'est qu'en fait, ce discours, cette critique des élites, très souvent, et vous l'avez dit dans votre petit speech d'introduction, ça vient des élites elles-mêmes, parce que les élites, ce qu'il faut voir, c'est qu'on en parle au pluriel, à raison, parce qu'elles sont divisées. Il y a des élites politiques, des élites économiques, des élites intellectuelles, il y a des élites libérales et des élites autoritaires, des élites de droite et de gauche, etc. Donc, elles sont en concurrence, en compétition, toutes ces élites. Et très souvent, quand on entend quelqu'un tenir un discours radicalement démocratique, supprimons toutes les élites, le pouvoir au peuple, c'est intéressant de se demander d'où il parle et qui il est, parce qu'on se rend compte que souvent, en réalité, derrière les belles intentions, le projet est de remplacer certaines élites par d'autres élites supposément plus compétentes que les précédentes.
Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que tous autour de cette table, a priori, nous faisons partie de ces élites dont nous examinons l'utilité ce soir, Nathalie Loiseau.
Sans doute que si on revient à l'étymologie du mot élite, ce sont des gens qui sont choisis pour exercer des responsabilités particulières. Donc un journaliste, un universitaire, la directrice d'une grande école, on doit pouvoir assumer de faire partie de ces élites, oui.
La définition de Larousse dit ceci, c'est un groupe minoritaire de personnes ayant dans une société une place éminente due à certaines qualités valorisées socialement. Ça, c'est tout votre portrait, Dominique Rousseau.
Ah bon ? C'est une critique ou
un compliment ? C'est un constat, je ne sais pas.
Non, je crois que...
Comment vous le prenez, vous, d'ailleurs, justement, tiens, si on vous dit que vous faites partie de l'élite ?
Eh bien, écoutez, ça dépend parce que le mot élite est un mot valise. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que derrière ce concept unique, il y a en fait des élites. Il y a des élites financières, économiques, il y a des élites politico-administratives et il y a des élites intellectuelles. Quand Élise Lucet fait ses émissions à la télévision, bon, elle fait partie de l'élite et elle dénonce. Quand Pierre Bourdieu rédige La misère du monde, c'est Pierre Bourdieu, professeur au Collège de France, nous dit quelque chose de la souffrance des gens. Lorsque Pierre Rosanvallon décrit les dysfonctionnements du système démocratique, il fait partie de l'élite, il dit des choses. Je pense que il y a plusieurs élites derrière ce mot élite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment les élites qui, par leur savoir, par leurs compétences, par leur expertise, montrent ce que d'autres élites voudraient rester cachées. Donc ce n'est pas les élites contre le peuple, c'est une partie des élites qui vient pour éclairer le peuple afin de lui montrer ce que certaines élites politico-financières, politico-administratives voudraient voir caché.
Tiens, d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser à tous les trois. Est-ce que quand on fait partie de l'élite ou des élites, ça signifie qu'on ne fait pas partie du peuple? Ou bien est-ce qu'on peut appartenir à l'un et à l'autre, Nathalie Loiseau?
Oh ben, on est citoyen en même temps que on est administrateur, ce qui est mon cas, fonctionnaire. On est. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce qui est devenu une habitude, un tic de parole, qui est le peuple contre les élites. Alors Dominique Trousseau dit non, c'est autre chose. C'est parfois les élites, certaines élites qui en éclairent d'autres, mais cette volonté de toujours séparer le eux et nous, qui est devenue une manière de penser systématique. Non, ce qui est important dans l'idée qu'une élite, ce soit des gens qui sont choisis, c'est éviter que ce soit des gens qui se choisissent et qui, par définition, seraient très loin, à distance du peuple. Mais on peut parfaitement être en responsabilité et faire partie du peuple. On doit même, s'agissant de l'administration et de la politique, être les deux. Mais c'est très difficile et c'est probablement là où on a beaucoup de choses à dire.
Oui, la question est intéressante parce que elle soulève l'ambivalence du mot peuple qui peut à la fois désigner le corps des citoyens et en ce sens-là, y compris un ministre qui pense qu'un pain au chocolat vaut 4 euros ou un ticket de métro 5 euros, qui est complètement déconnecté des réalités quotidiennes, fait malgré tout partie du peuple en tant que citoyen. Mais le peuple, c'est aussi, et c'est peut-être dans ce sens-là parfois qu'on l'entend, c'est les classes populaires. Voilà, c'est donc là une certaine condition sociale et matérielle qui fait que clairement, de ce côté-là, on est obligé de constater qu'il y a des gens qui sont plutôt en haut de la pyramide sociale et d'autres en bas, et là, ils ne font pas partie du même groupe.
Oui, oui, je fais partie du peuple, c'est-à-dire je fais mes courses, je me promène, je vote, je vais au cinéma, je dirais comme tout le monde. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que par ma formation, par ma profession, je peux avoir une connaissance sur le fonctionnement de la société. Et cette connaissance que j'ai de la société, soit je la garde pour moi, je reste dans mon laboratoire, je reste dans mon université, soit je la donne au public pour que le public s'en serve ou ne s'en serve pas, mais je la donne au public. Et je pense que la responsabilité des élites est précisément de mettre leur savoir, de mettre la chance qu'ils ont eue d'avoir été sélectionnés par leur mérite, au service du public. Et c'est pour ça que je distingue une autre catégorie d'élite qui, elle, veut empêcher que soit montré ce qui vient exploiter, ce qui vient dominer et ce qui vient reproduire un système d'inégalité sociale.
Voilà, vous faites le distinguo entre les élites politiques et économiques, oui, et les élites intellectuelles, oui, dont vous dites les premières, elles gouvernent, les secondes, elles sont gouvernées. Question de Guillaume Goubert.
Justement, est-ce que le problème n'est pas cette trop grande capillarité et communication entre l'élite politique et l'économie et l'élite économico-financière? Est-ce que c'est pas l'absence d'un mur ou d'une cloison entre ces deux univers qui pose particulièrement problème actuellement?
Si, bien sûr. C'est pour ça que je distingue à l'intérieur de l'élite plusieurs catégories. Pour moi, il y a l'élite que je dis rapidement intellectuelle, les universitaires, les artistes, les écrivains, les journalistes, dont le métier est de montrer, c'est-à-dire de permettre aux citoyens d'exercer leur regard de citoyen. Et puis vous avez une autre élite, l'élite financière, économique, managériale, et administrative, politique, qui elle gouverne. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de passerelle entre les deux. Des intellectuels dont je parlais tout à l'heure, Thomas Piketty, Rosan Vallon, Bourdieu, ils ont écrit, ils ont vu venir la misère du monde. Ils ont vu venir, Thomas Piketty a vu venir les inégalités sociales dans son bouquin. Rosan Vallon a vu venir la crise de la démocratie représentative. Quelles sont, parmi les élites qui nous gouvernent, économiques, financières, administratives, politiques, est-ce qu'ils ont été écoutés? Non. Ou peu. Et il est là le problème.
Nathalie Loiseau, l'ENA, justement, l'École nationale d'administration, a la vocation à former des élites politiques et élites économiques. Je crois d'ailleurs que c'est de plus en plus le cas. Il me semblait qu'il y avait une étude, en tout cas, de l'ENA sur les filières que choisissaient les énarques en sortant, justement, de l'école, et que c'était beaucoup dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise.
Pas du tout.
Non?
C'est 8% des anciens élèves.
Ah bah pardonnez-moi, je pensais que c'était beaucoup plus que ça.
C'est pas une étude de l'ENA, c'est une étude qui a été faite par deux chercheurs de l'EHESS. Parce que quand on veut être sérieux, on s'adresse à des chercheurs.
Et ce qu'on fait pas... L'EHESS, c'est sérieux. N'est-ce pas Manuel Servien-Barzal?
En tout cas, les deux qui ont travaillé sont extraordinairement sérieux.
Alors pardon, moi je pensais vraiment que c'était de plus en plus le milieu économique qui attirait les gens.
Mais je suis ravie que vous me posiez la question, parce que c'est... Parmi les idées reçues, une idée reçue qui fait florès, c'est extrêmement peu de monde par rapport à une promotion d'élèves de l'ENA. Et vous parliez aussi de la politique. C'est 2% des anciens élèves de l'ENA qui font de la politique à niveau national. Alors, certes, 3 présidents de la République sur 6 pendant la 5e République. Donc la visibilité, elle est maximale. Mais c'est 2% des anciens élèves. C'est-à-dire que l'énorme majorité des élèves que forme cette école sont formés à être serviteurs de l'État, c'est-à-dire fonctionnaires en responsabilité, c'est-à-dire, par rapport aux distinctions que faisait Dominique Rousseau tout à l'heure, plutôt du niveau du côté des gouvernés que des gouvernants. Ce sont des gens qui sont là, bien sûr, pour conseiller avant de prendre une décision. Un politique doit savoir y mettre les pieds, mais surtout pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises par les élus de la nation. C'est ça que forme l'école.
Mais pour prolonger sur ce sujet, est-ce que, pas seulement concernant l'ENA, mais également concernant d'autres grandes écoles, je pense à Polytechnique notamment, est-ce qu'il ne faut pas durcir les règles de ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire la possibilité de passer de corps administratif à des entreprises privées?
Alors, s'agissant de l'ENA, elles sont très dures ceux qui pantouflent, donc les 8% dont je vous ai parlé, nous leur demandons de rembourser leur scolarité, ce qu'ils font. Polytechnique, pendant longtemps, c'était beaucoup moins dur. Il y a encore une école dont on ne parle jamais, mais pour laquelle c'est encore moins dur, c'est Normale Sup. C'est-à-dire qu'on va rarement rechercher ce que deviennent les Normaliens plus tard. Alors, vous avez raison.
Ils viennent à France Culture.
Oui, et non, mais ça ils ont raison. Vous avez raison, oui et non, parce que le discours, c'est d'une part ce que disait Dominique Rousseau, il y a trop de collusion entre l'élite administrative ou politique et l'élite économique. Et puis vous avez un autre discours qui consiste à dire ces fonctionnaires et ces politiques ne comprennent rien à l'économie. Donc comment est-ce qu'on résout cette équation extraordinairement compliquée où il faut tout de même faire en sorte que créer de l'emploi permettre de se confronter à ce que décrit Thomas Piketty. Il faut quand même comprendre ce qui se passe dans le monde de l'économie. Le vrai sujet, c'est d'abord, et plutôt que le pantouflage, la question du conflit d'intérêts, qui longtemps a été très, très mal traité en France. Alors, il y a depuis quelques années des lois de plus en plus dures, de plus en plus exigeantes, et c'est une bonne chose. Et puis, c'est la question de l'éthique, des comités d'éthique, des codes de déontologie, sur lesquels on commence à avancer, pas assez vite de mon point de vue, mais il y a une tendance qui va dans le bon sens.
Et Microsoft ?
Oui. Je serais peut-être un peu plus nuancé que vous s'agissant de la position notamment des hauts fonctionnaires qui seraient du côté des gouvernés. Je pense qu'il y a quand même, et notamment sous la Ve République, une grande porosité entre la haute fonction publique et le monde politique. La Ve République, justement, et ça a été un des problèmes de la Ve République au départ, où le général de Gaulle ne trouvait pas d'hommes politiques prêts à le suivre, et il a été obligé de puiser parmi les énarques. Et depuis, on voit bien qu'il y a quand même au niveau de la direction de l'État, que ce soit à gauche ou à droite, une très grande proximité entre l'élite de la haute fonction publique et l'élite politique. Vous dites 2%. Ce n'est pas le pourcentage qui est important, c'est l'influence que ça peut avoir.
Si, c'est quand même très important, parce qu'aujourd'hui, la plupart des politiques dont on parle...
L'exemple de la promotion Voltaire, on la trouve actuellement partout.
Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la promotion Voltaire? C'est qu'elle est arrivée, vous citiez tout à l'heure le général de Gaulle, la promotion Voltaire a terminé sa scolarité en 1980, juste avant l'événement dont on nous avait dit que ça allait être un séisme considérable, qui était l'alternance, l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Donc, après des années de pouvoir de la droite, François Mitterrand arrive et n'a pas confiance dans l'administration. Il va s'appuyer autour de lui à l'Élysée sur des conseillers qu'il va piocher directement à la sortie de l'ENA. Ça va être, j'allais dire, un effet d'aubaine pour cette promotion, comme on n'en a jamais revu depuis. Donc il y a un effet loupe grossissante sur la promotion Voltaire, à laquelle on pense tout le temps en ce moment, parce que le président de la République en est issu. C'est très particulier. En revanche, là où je vous rejoins complètement, c'est moins sur ceux qui exercent un mandat national, parce que vous avez aussi des carrières d'élus locaux. Et aujourd'hui, les hommes politiques qu'on voit ici ou là, à droite, à gauche, sont beaucoup des élus locaux, et pourquoi pas. En revanche, c'est la particularité des cabinets ministériels, qui en France ont une importance en taille et en rôle qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Alors, si je vous entends bien, l'un et l'autre, je mets peut-être Manuel Cervera-Narzal un petit peu à part pour l'instant, Nathalie Loiseau et Dominique Rousseau, je n'entends pas forcément, en tout cas, une critique absolue des élites en soi, c'est-à-dire de la nécessité peut-être d'en avoir, mais plutôt des règles de fonctionnement qui seraient à revoir pour que ces élites-là remplissent la mission qui est la leur et qu'elles la remplissent d'une manière un petit peu meilleure. Est-ce que c'est aussi votre...
Enfin, pardon, oui, alors, Dominique Rousseau. Oui, c'est-à-dire je ne suis pas contre les élites. Je ne suis pas contre les élites. En revanche, je trouve que notre pays, la France, a un problème dans la mesure où les élites sont, excusez-moi, un peu monoformatées, et notamment formatées par l'ENA. Bon, vous l'avez dit d'ailleurs, vous formez à l'État. Il faut faire les fonctionnaires.
On forme
l'État.
Un tiers des hauts fonctionnaires.
Voilà, seulement. Un tiers des hauts fonctionnaires. Donc, il y a une pensée d'État. Construite, fabriquée par l'ENA, qui se diffuse dans la société. Et la question que je pose, j'ai pas nécessairement la réponse, la question que je pose, c'est que cette pensée d'État était peut-être nécessaire au début du XXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société n'a pas besoin d'être libérée de cette pensée d'État pour laisser la société civile prendre davantage de place dans l'organisation des rapports sociaux? Est-ce qu'on n'a pas trop d'État? Est-ce que l'État, et donc l'ENA, est-ce que l'État n'étouffe pas la société civile et tous ces intellectuels de proximité de la société civile qui sont empêchés de s'exprimer?
Manuel Cervera-Narzal, est-ce que c'est de cette façon-là que vous posez le problème, ou bien est-ce que vous avez une approche peut-être un petit peu plus radicale qui consisterait, si ce n'est à se passer des élites, en tout cas à les contourner peut-être davantage?
Oui, je pense qu'effectivement j'ai une approche assez radicale. Trois petits points, peut-être. Le premier, d'abord, c'est ce que vient de dire Dominique Rousseau. Il ne s'agit pas d'en vouloir personnellement aux élites. On ne choisit pas où on est. On est, bah, en général, on sait d'ailleurs que les membres des élites sont, il y a une forte reproduction. Donc voilà, on ne choisit pas là où on est. Le deuxième point, c'est que vraiment, à nouveau, hein, il est important de différencier entre les élites. Moi, j'ai des affinités particulières avec d'autres membres de l'élite intellectuelle. Vous avez cité Piketty, vous avez cité Rosan Vallon, Jacques Rancière, des gens comme ça, sont des gens pour moi qui nous aident à penser et qu'on peut absolument pas mettre sur le même plan que les chantres de la modernité néolibérale ou de l'austérité budgétaire. Voilà, donc il y a différentes élites. Et le troisième point peut-être, et c'est là effectivement que j'ai un point de vue peut-être assez radical ou en tout cas assez démocrate, mais au sens originel du mot sur le sujet, c'est que je pense pas que ils servent à quelque chose de perfectionner nos élites, de les amender, de les réformer, de les améliorer. Pour moi, l'objectif n'est pas d'avoir de bonnes élites. Je ne crois pas que il y a peut-être
dans le journal La Croix, hein, puisque vous avez répondu avec également Dominique Rousseau aujourd'hui à la question sur la responsabilité des élites et justement aussi sur le fait de savoir si on peut s'en passer. Vous dites que c'est pas un problème de compétence, c'est-à-dire c'est une fausse, une mauvaise façon de poser le problème.
Bien sûr, parce que on pourrait dire aujourd'hui il faut des élites plus compétentes ou plus honnêtes, plus intègres, moins corrompues. Certes, je suis d'accord. Évidemment, on est pour des élites compétentes et intègres. Mais simplement, le problème, c'est que les élites, elles ont des valeurs et des savoir-faire, mais elles ont aussi des intérêts. Et en général, quand elles doivent agir au moment où elles doivent décider, bah, dans la balance, il y a d'un côté leurs intérêts et de l'autre côté leurs valeurs et leurs compétences. Et c'est pas facile d'arbitrer entre les deux. Et souvent, malheureusement, on fait le choix des intérêts. Et c'est pour ça que le problème, il est structurel et que quand on est démocrate, on veut tout simplement confier le pouvoir au peuple. Pas parce que le peuple aurait toujours raison. On sait bien que le peuple peut se tromper. Simplement, on considère qu'on préfère que le pouvoir revienne entre ses mains et on fait au maximum pour qu'il ait les compétences, le savoir-faire. Pour ça, il y a plein de façons possibles et imaginables.
Quitte à ce qu'il y ait des erreurs qui soient faites, autant qu'elles soient faites par le peuple. Donc, c'est ce que vous dites à Manuel Cervera-Narzal. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche, Nathalie Loiseau et Dominique Rousseau?
Nathalie Loiseau. En ce qui me concerne, avant de diriger l'ENA, j'ai été diplomate pendant 30 ans et j'ai beaucoup travaillé sur le monde arabe et sur le terrorisme. Aujourd'hui, parmi les fonctions qui relèvent des élèves que je forme, il y aura la lutte contre le radicalisme, la lutte contre le terrorisme. Je suis désolée, on a besoin de gens compétents pour faire face à des situations de plus en plus complexes qui créent une angoisse considérable dans les populations. Qu'est-ce qu'on veut dire? Finalement, la compétence est également répandue parmi tous les citoyens parce qu'ils ont tous un minimum du bon sens et je sais que certains philosophes le pensent. C'est la base de la démocratie. Tout le monde a le droit de voter parce que tout le monde est citoyen et tout le monde a le droit d'exprimer son opinion. Il n'empêche que pour éviter demain une nouvelle crise financière comme on en a connu une, sans doute parce que les élites n'étaient pas assez informées, compétentes, sans doute parce qu'on n'avait pas assez croisé les savoirs et les cultures. Et je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire pour mieux faire dialoguer, notamment la recherche et la pratique de la décision publique, pour éviter une crise financière, pour éviter les nouveaux actes terroristes, pour éviter tout ce qui inquiète nos concitoyens et qui parfois... On l'a vu dans l'Amérique avec l'élection de Trump, on l'a vu en Angleterre avec le Brexit. Parfois, les pousse à des décisions qui ne sont pas de suivre des populistes. Moi, je déteste le terme de populisme parce que ça a l'air de dire que le peuple, c'est péjoratif, mais qui les pousse à suivre des opportunistes et des arrivistes, ce qui est sans doute pour le bien de personne. On a besoin de responsables compétents, qu'on le veuille ou non.
Mais Nathalie Loiseau, vous allez peut-être trouver ma comparaison un peu stupide, et sans doute qu'elle l'est un petit peu, mais pour être boulanger, par exemple, j'ai besoin d'être compétent. Or, moi, boulanger, enfin, je ne le suis pas, mais je ne fais pas partie de l'élite, je ne fais pas partie de...
Je n'ai pas
des responsabilités particulières, par rapport à un groupe social.
Je ne suis pas d'accord. Vous avez, chez les artisans, les meilleurs artisans de France qui sont fiers de l'être. Si vous étiez footballeur et que vous étiez dans l'équipe de France, vous seriez fier d'avoir été sélectionné et vous auriez soit le soutien, soit les critiques de l'ensemble de nos concitoyens, parce que ceux qui sont dans l'équipe de France sont capables de faire des choses que vous et moi ne sommes pas capables de faire sur un terrain de foot.
Mais alors justement, c'est là que le débat devient intéressant, Madame Loiseau, c'est que si on relit Aristote, il explique bien que la politique d'un côté et de l'autre côté la boulangerie ou la menuiserie, c'est radicalement différent. C'est radicalement différent. Pourquoi ? Parce que la compétence de menuisier ou de boulanger, c'est une compétence spécifique, technique, qui s'acquiert par une formation, par de l'expérience, alors que la politique, eh bien on est tous compétents politiquement. Et c'est ça le point vraiment fort sur lequel il faut tenir quand on est démocrate, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on est tous compétents pour donner notre avis, pour prendre part à la décision, mais tout simplement parce qu'on est tous concernés par ces décisions, qu'on est tous concernés par ces lois. Le meilleur juge concernant la qualité d'une maison, c'est pas l'architecte, c'est ceux qui y habitent. Eh bien, concernant un régime politique, c'est la même chose. Les meilleurs juges et les meilleurs décideurs, c'est pas ceux qui, parce qu'ils seraient sortis de l'ENA, auraient grimpé les échelons d'un parti ou autre, auraient un titre à gouverner. Non, c'est ceux qui subissent les lois, qui les vivent au quotidien.
Mais on est parfaitement d'accord. Mais ce que vous êtes en train de décrire, c'est la démocratie.
Direct.
Parfaitement d'accord. Peut-être pas. D'abord, ce que vous, comment dire, la thèse que vous défendez. Pour moi, à un défaut ou un inconvénient ou un point sur lequel discuter, c'est que nous serions tous naturellement, et j'insiste sur le plan philosophique sur naturellement, nous serions tous naturellement compétents pour prendre des décisions sur les règles bonnes de la cité. Or, alors peut-être parce que, mais vous l'êtes aussi, peut-être parce que je suis enseignant, je pense que l'éducation est capital pour apprendre aux citoyens à discerner, parce que spontanément, si le citoyen est laissé à lui-même, il est laissé aux idées dominantes. Et les idées dominantes, c'est les idées de la classe dominante, c'est-à-dire des capitalistes. Et par conséquent, il y a besoin d'un rôle d'intellectuel, d'un rôle alors de cette partie de l'élite dont je parle, y compris des journalistes, enfin sinon on va suicider France Culture, mais de cette élite-là pour justement aider ceux qui tous les jours la main dans le cambouis n'ont pas le loisir, alors au sens philosophique du terme, c'est-à-dire n'ont pas le temps et la disponibilité pour se saisir des problèmes de la société. Là où c'est grave. Et c'est là où je peux vous rejoindre. Là où c'est grave, c'est que... Là où ça peut devenir grave, c'est que ces intellectuels qui ont le loisir de penser la chose publique, parfois, ils vont s'enfermer sur eux-mêmes et ils vont se déconnecter avec les gens qu'ils ont pour ambition de servir. Et c'est pour ça que de plus en plus, et je vous le disais ce matin dans votre journal, c'est pour ça que de plus en plus, on voit des intellectuels partir à la rencontre des citoyens et les citoyens venir en masse dans les conférences, dans les manifestations scientifiques, parce que il y a une relation, je crois, qui se fait. Les citoyens sont avides de connaissances. D'un autre côté, les intellectuels sont avides de faire passer leur savoir. Et c'est comme ça que se forme la démocratie. Je dirais, on n'est pas spontanément démocrate. Mm-hmm. Il y a tout le phénomène d'éducation. Et c'est en ce sens que l'élite intellectuelle a un rôle formidable. Que voulez-vous c'est pas de la faute de l'élite intellectuelle lorsqu'elle a dit que Trump était sexiste. Oui, Trump est sexiste. Trump est raciste. Oui, Trump est raciste. Et c'est pas et les intellectuels ont eu raison de le dire. Après, le peuple fait ce qu'il veut.
Peut-on se passer des élites? C'est la question que nous posons ce soir dans Du grain à moudre à Nathalie Loiseau, à Manuel Cervera-Marzal et à Dominique Rousseau. Et je le fais en compagnie de Guillaume Goubert du journal La Croix.
Oui, alors moi, si on prend le titre de cette semaine spéciale, pourquoi ne voit-on rien venir? Je trouve quelque chose quand même d'assez mystérieux, parce que vous l'avez dit, monsieur Rousseau, il y a beaucoup d'intellectuels qui font un travail qui alerte sur un certain nombre de réalités. Les hommes politiques, ils sont souvent élus locaux, ils voient les réalités de près. Les journalistes vont sur le terrain, font des reportages et rapportent dans leurs journaux des réalités sociales. Les fonctionnaires... Madame Loiseau a raison de dire que tous les énarques ne sont pas inspecteurs des finances. Il y a des gens qui sont dans les directions du travail, qui sont dans les tribunaux administratifs. Enfin, on peut citer plein de fonctions assurées par des énarques qui sont très très proches du terrain et à travers tout le territoire français. Comment se fait-il que, et tous font un peu les mêmes constats, comment expliquer que tout ça ne remonte pas mieux au sommet et ne donne pas lieu à des décisions politiques plus efficaces?
C'est une question qui s'adresse à vous trois, mais Nathalie Loiseau, par exemple.
Alors, ce que je trouve, mais j'aurais dit la phrase de la même manière que vous, mais on a des tics de langage qui en disent énormément, remonte au sommet. C'est-à-dire qu'il y aurait un sommet et une base, et je pense que c'est effroyable qu'on continue à penser comme ça, et qu'on soit organisé comme ça, avec un pouvoir et une administration, hein, moi je les mets, pour le coup, pour une fois les deux ensemble, hérités de Napoléon avec une verticalité terrible. C'est cette verticalité qui... nous cause énormément de tort. On est en plein dans la révolution numérique et on est censé être mieux informé et mieux communiqué que jamais. La réalité, c'est que on ne s'est pas organisé pour faire en sorte que le savoir, une forme de prospective et la décision publique aillent ensemble. Et je reviens sur ce que disait Dominique Rousseau tout à l'heure sur le rôle des intellectuels. Oui, les intellectuels doivent aller au plus près des citoyens, parce que l'enjeu majeur, c'est celui de l'éducation. Mais pas seulement. Moi, je suis très frappée de voir que jusqu'à récemment, les intellectuels... Alors, c'est toujours difficile de généraliser. J'aime pas qu'on dise des fonctionnaires. J'aime pas non plus dire les intellectuels. Mais beaucoup d'entre eux considéraient que la recherche, c'était quelque chose de chimiquement pur, et que de se rapprocher de la décision publique, c'était se rapprocher du malin, et que ça n'était pas pour ça qu'ils avaient choisi leur carrière et leur positionnement. Je pense qu'on n'a plus ce luxe-là, aujourd'hui. Je pense qu'on est, et j'y reviens, dans des enjeux d'une complexité telle, et face à des tensions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, de telle ampleur qu'on a intérêt à se rapprocher, travailler ensemble, plutôt que d'être tous des oiseaux de mauvais augure et de prévoir que dans 10 ans, dans 20 ans, la société française sera encore plus éclatée qu'aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire aussi se rapprocher du terrain davantage? Et auquel cas, comment est-ce que quand on est élève à l'ENA, on pratique le terrain, justement, pour avoir aussi peut-être une autre perception?
Alors ça, c'est vraiment le fond de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à l'école, c'est-à-dire, bon, évidemment, partir en stage, mais ça, c'était la base depuis 1945, on n'a rien inventé.
Après, ça, tout dépend où on fait son
encore
stage.
Encore faut-il faire en sorte que le stage ne soit pas à l'étage confortable de direction d'une institution ou d'une autre. Ça n'est plus le cas. Mais ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est une forme de démocratie participative qui consiste à se dire comment est-ce qu'on conçoit une politique publique avec les citoyens. Plutôt que, pour reprendre la phrase de tout à l'heure, du haut vers le bas, même s'il n'y a pas de haut et de bas, en tout cas du centre vers l'extérieur, comment est-ce que on associe nos compatriotes, nos concitoyens, aux décisions dont ils ont envie, dont ils ont besoin. Comment on conçoit une décision? Comment est-ce qu'on la met en œuvre ensemble aussi? Parce que moins d'État, comme vous l'appeliez de vos voeux tout à l'heure, Dominique Rousseau, c'est aussi une société civile qui prend davantage part à la mise en œuvre du bien commun, puisque c'est de ça dont on parle. Il n'y a plus de monopole de l'intérêt général et du bien commun. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer comme message et d'expérimenter dès une école comme la mienne, en tout cas.
Je sens que vous allez faire regretter à Manuel Servera-Marzal de ne pas avoir passé le concours de l'ENA.
Il n'est pas trop tard.
Il n'est jamais trop tard, effectivement. Mais pour l'instant, je suis très bien à l'UHSS. Et d'ailleurs, effectivement, en tant que sociologue, pour le coup, le terrain, c'est le cœur de notre métier. Parce que même si c'est parfois un peu long, laborieux, c'est justement à base de données empiriques qu'on travaille. Mais je voulais rebondir sur la question qui a été posée, qui chapeaute un petit peu cette semaine spéciale, à savoir pourquoi est-ce que nous n'avons rien vu venir aux événements politiques récents du type le Brexit ou la victoire de Trump. Et je voudrais dire que la question, je la trouve un peu mal posée. Alors je suis désolé, hein, mais j'explique en quelques mots pourquoi. Je la trouve un peu mal posée parce que par définition, en politique, on voit pas venir la politique. S'il y a bien un domaine qui est le domaine de l'imprévu, du nouveau, de l'inédit, c'est ça. Je sais pas, je rappelle quelques événements comme ça, mais en 2005, qui avait vu venir le non au TCE? En 2002, qui avait vu venir Le Pen au second tour? En 95, qui avait vu venir Chirac devant Balladur? Et puis en 68, on se rappelle de ce fameux titre quelques jours avant, en une d'un journal, la France s'ennuie, on ne voit pas venir.
Peut-être qu'il y a une forme de condescendance, justement, dans cette forme de questionnement, Manuel Servera-Marzal, de se dire, bah voilà, on a l'impression qu'on doit tout maîtriser,
sûr,
et qu'on maîtrise aussi voilà, les événements.
C'est exactement ça, on s'imagine qu'on devrait pouvoir prédire l'avenir, comme si une science politique était la même chose qu'une science, je ne sais pas, des météorites, ou qu'une science physique ou mathématique, où là, il y a des possibilités de prédiction. Mais en science politique, non, on ne peut pas prédire l'avenir.
Ça revient à enlever un peu de la part de responsabilité qu'ont les élites aujourd'hui. Elles
oui,
peuvent pas
bien
tout
sûr.
Non plus.
Alors, elles sont pas on ne peut pas les accuser de ne pas avoir vu venir la victoire de Trump. Par contre, et là j'insisterai là-dessus, on peut éventuellement les rendre responsables, pas leur mettre toute la responsabilité sur le dos, mais on peut les rendre responsables d'avoir contribué à faire advenir ce genre de personnage. Pourquoi ? Parce que quand on s'enferme comme ça dans un dogme de l'austérité, qu'en plus d'une idéologie quand même économique très largement partagée, on commence à remettre la faute de tous les maux de la société française sur le dos des musulmans, sur le dos des Roms, sur le dos des immigrés, etc. etc. Là, oui, c'est-à-dire, c'est même pire que de ne pas avoir su prédire, c'est qu'en fait, on accompagne la droitisation de la société.
Dominique Rousseau.
Oui, mais je pourrais être d'accord avec vous en nuançant sur un point où la critique que vous venez de faire par rapport à Trump, c'est pas aux élites, c'est à la politique d'austérité.
Oui.
Mais c'est du libéralisme, c'est la politique d'austérité que vous critiquez. En quoi les journalistes qui ont dénoncé le racisme, le sexisme de Trump ont contribué et sont responsables de la victoire de Trump? Je pense que c'est les politiques d'austérité menées par l'élite, alors économique, financière, immobilière, qui a provoqué ça. Pour revenir peut-être à votre question je pense, il n'y a pas de passerelle entre ce que j'appelle, pour faire vite, mais ce que j'appelle l'élite qui aide à gouverner et l'élite qui montre les dysfonctionnements, les inégalités sociales, etc. Je pense qu'elles sont animées par deux logiques différentes, deux logiques de positionnement, deux logiques de situation, deux logiques de travail. On a tous été, je pense, à un moment donné, quand on est auditionné, par exemple, devant une commission parlementaire sur l'état d'urgence. Tenez, l'état d'urgence, vous croyez qu'on a, en tant qu'universitaire, Olivier Beau, par exemple, ou moi-même, je suis intervenu à plusieurs reprises pour dire attention, l'état d'urgence est dangereux, la déchéance de nationalité, faut pas le faire. J'ai été auditionné, je l'ai dit aux politiques. Ils m'ont dit oui, vous avez raison, effectivement, c'est dangereux, mais faut que je le fasse pour le peuple. Le peuple a peur, il faut que je lui donne de la sécurité. Et moi, je leur ai dit, vous vous rendez compte, c'est grave, parce que ça fait un an qu'on a un état d'urgence, on s'en rend plus compte. Et donc on s'habitue progressivement à une société de la peur. Mais ça, les intellectuels le disent, ils ne nous écoutent pas, parce que précisément ils sont pris dans une autre logique, qui est de maintenir cette espèce d'opacité, parce que cette opacité les sert. Et c'est pour ça que je maintiens qu'il convient de faire une différence entre les intellectuels qui, par leur travail, montrent, critiquent, et ceux-là sont non pas contre le peuple, mais avec le peuple, à qui ils apportent précisément un savoir, et après le peuple en fait ce qu'il veut. Et puis, une autre partie de l'élite qui, elle, au contraire, cherche à maintenir, en quelque sorte, cette domination sur le peuple.
Est-ce qu'on est sûr, d'ailleurs, Nathalie Loiseau, que, alors, appelons-le, continuons de l'appeler le peuple, est vraiment convaincu de la nécessité de remettre en cause la place des élites? Ou est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi peut-être de contradiction, c'est-à-dire à la fois une remise en cause et puis un besoin d'autorité? Alors c'est ce que l'on peut voir dans certaines enquêtes d'opinion, et puis à la faveur de la primaire de la droite et du centre, on a bien vu aussi que c'était des thématiques qui pouvaient être porteuses aujourd'hui.
Je me garderais bien de parler à la place du peuple. Ceux qui s'en prévalent ont généralement des intentions qui ne sont pas toutes pures. Alors, étant non pas universitaire, mais fonctionnaire tenu au devoir de réserve, il y a des sujets sur lesquels je n'irai pas. J'irai quand même, si vous citez la primaire de la droite, on peut dire énormément de choses sur cette primaire, si ce n'est que on avait beaucoup entendu qu'il y avait une soif de renouvellement. On a vu ceux qui ont participé à la primaire choisir entre un ancien président et des premiers ministres sans avoir l'air de s'en trouver mal. Et ils étaient extrêmement nombreux. Je crois qu'on a tous été... On n'avait pas vu venir autant de participants à cette primaire. Enfin, peu de gens avaient dit qu'on en atteindrait des chiffres pareils. Et elle s'est déroulée dans des conditions d'organisation qui paraissent être tout à fait décentes. Bon, pour le reste, je reviens à mon devoir de réserve. Sur l'état d'urgence, et un peu par provocation, parce que j'ai Dominique Rousseau en face de moi, mais je sais qu'il n'aime pas beaucoup le Conseil d'État. Il se trouve tout de même que le vice-président du Conseil d'État...
J'ai rien dit ce soir.
Non, mais vous l'avez écrit. Et vous,
absolument.
Et
je le maintiens.
Et comme je vous lis, je le sais. Il se trouve que le vice-président du Conseil d'État a dit publiquement, ouvertement, que l'état d'urgence avait trop duré. Il a donc rempli son rôle de juge protecteur des libertés fondamentales. Et on a... Dans notre pays,
non, vous pouvez pas dire que le Conseil d'État est le
je
juge
savais que j'allais,
des,
je savais que ça ne plaît pas, mais en tout cas,
de par la Constitution,
c'est fait exprès. Là.
Mais non, mais ça c'était exprès. En tout état de cause, sur l'état d'urgence,
ceci dit, c'est très bien
s'est exprimé, et c'est quand même assez assez remarquable sur Trump. Je réagis parce que là, pour le coup, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, et il me semble que dans notre conversation, on a un angle mort qui me gêne. C'est celui des médias, alors pas un média comme France Culture, mais des médias qu'on appelle généralistes, mainstream ou comme vous le voudrez, mais qui ont quand même fait le succès d'un Donald Trump beaucoup plus qu'une politique d'austérité qui n'a pas eu lieu aux États-Unis. Il n'y a pas eu de politique d'austérité aux États-Unis sous Obama. En revanche, il y a des médias d'une qualité absolument épouvantable. Le Brexit, 80% des articles sur l'Union européenne, dans les 6 mois qui ont précédé le référendum, donner une image extrêmement négative de l'Union européenne. Ne vous étonnez pas qu'à la sortie de ça, vous ayez un résultat comme celui du référendum. Ceux qui disent on n'avait rien vu venir, là, je dirais qu'il y avait peut-être un entre-soi d'une certaine presse classique qui n'avait pas vu qu'existait d'autres genres de médias, une société du spectacle qui s'est extraordinairement développée.
On pourrait évidemment poursuivre cette conversation assez longuement, mais on est quasiment à la fin de cette émission. Puis je vous rappelle, donc, on est sur une programmation sur toute la semaine pour nous poser ces questions. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué et qui pourrait peut-être participer du renouvellement des élites, du renouvellement temporaire d'ailleurs. C'est un thème qui est assez porté, notamment par Nuit Debout il y a quelques mois de cela. C'est la question du tirage au sort aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire une émission sur le tirage au sort, Manuel Servière-Merzal, mais est-ce que on aurait pu, par exemple, imaginer, pour faire cette émission, tirer au sort des auditeurs de France Culture et avoir la même qualité de débat que ce que vous venez de nous démontrer ce soir?
Et pourquoi pas, c'est des choses qui s'expérimentent dans d'autres pays, en Islande, en Irlande, au Canada. Il y a beaucoup d'endroits où on tire au sort des gens supposément incompétents, c'est-à-dire que vraiment ils sortent un peu de nulle part, et quand on les met ensemble et qu'on leur donne un peu de documentation et un peu de temps pour réfléchir, on se rend compte qu'ils produisent des choses profondément intelligentes.
Regardez le film 12 hommes en colère en droit. des jurés tirés au sort. Eh bien, quand vous prenez les gens au sérieux, les gens se prennent au sérieux.
Encadrés par des magistrats professionnels.
Non, même, justement, non. Non, dans les 12 hommes en colère, non.
Ah, peut-être pas dans 12 hommes en colère. Dans les procès d'assises en France,
les jurés.
Il y a toujours, voilà.
Oui, mais c'est eux qui sont majoritaires. Donc, je crois que le tirage au sort n'est pas quelque chose de négatif.
Bon, alors, on a d'ailleurs déjà fait une émission sur ce sujet. On en consacrera sans doute d'autres. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Manuel Cervera-Marzal, Nathalie Loiseau et Dominique Rousseau. Merci, Guillaume Goubert. Je rappelle les pages débat du jour. Colère populaire des élites sont-elles responsables? La croix qui va nous accompagner toute cette semaine. Guillaume, on vous retrouve vendredi pour le Club des idées du Grain. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, notre réalisatrice Anne-Laure Chanel, à Jean-Frédéric qui a assuré la prise de son. Demain, nous poserons la question suivante. Faut-il un conseil de l'ordre des journalistes ?